des personnes qui vivent cela, c'est-à-dire des drames, accompagner les familles. Il y a quand même un petit côté méprisant, c'est-à-dire en fait les gens seraient suffisamment idiots pour pas faire la part des choses, pour se laisser complètement dominer par les politiques ou la société de l'information, mais lui il y participe aussi puisque Emmanuel Macron est quelqu'un quand même qui parle beaucoup, c'est peut-être le président le plus bavard de la 5e République, il intervient tout le temps, il était hier soir encore sur France 2. D'ailleurs, je regardais les audiences, ça n'a pas très bien marché pour parler des océans. Il était dans la presse régionale ce week-end, il sera encore je ne sais où dans quelques jours. Donc lui-même est dans ce pas lavage de cerveau, mais dans effectivement cette société de l'information, peut-être de trop plein d'informations, sans doute peut-être. Mais est-ce que ça doit expliquer les drames que nous vivons et est-ce que ça doit nous empêcher d'en parler?
Mourad,
moi, je trouve ça insultant ce qu'il vient de dire parce que je trouve quand même que ce qui s'est passé c'est plus profond qu'un fait divers, c'est plus grave qu'un fait divers et c'est assez inquiétant que la personne qui est censée diriger le pays et nous diriger ne réalise pas que c'est bien plus profond et bien plus grave qu'un fait divers. Et c'est, d'abord, c'est insultant pour les familles de placer la mort d'une personne, la mort violente d'une personne comme un fait divers. C'est un drame, d'abord. Mais ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. Et j'aimerais que le président, aujourd'hui, il ait cette analyse et qu'il réalise exactement ce qui se passe, quitte à déclencher l'article 16, s'il veut, c'est pas grave, qu'il prenne tous les pouvoirs.
Ah bon?
Mais qu'il apporte des solutions. Parce qu'aujourd'hui, il n'y en a personne qui peut apporter des solutions, parce que tout le monde a les pieds et les mains liées, quoi, je veux dire. Mais il faut apporter des solutions. Et la solution, c'est pas d'appeler ça un fait divers. La solution, c'est de dire qu'on a une crise très grave dans notre société, qui a un malaise à tous les niveaux, et que ça va être compliqué bientôt de vivre dans une société en paix. C'est déjà plus vraiment le cas. Et ça va faire que s'aggraver. Et qu'il est peut-être pas trop tard pour trouver des solutions radicales. Parce que c'est, quand un chien te mord, c'est pas en le caressant que tu l'empêches de te mordre, c'est clair. Mais il y a des gens qui vont te dire caressez-le. Mais aujourd'hui, il faut prendre des solutions radicales et courageuses. Et peut-être qu'ils sont à l'encontre de ses convictions premières, parce que le monde a changé et la France a changé. Est-ce qu'il en est capable? Je sais pas. Je sais pas s'il en est capable. Mais il faudra que quelqu'un soit capable de les prendre. Et même moi, aujourd'hui, j'avais des convictions qui sont remises en question par tout ce qui se passe dans ce pays, et je me dis peut-être qu'il y a des choix difficiles à faire, des choix qui ne correspondent pas à notre éducation, à notre culture, à ce qu'on pense de la France, mais pour gérer le présent. Parce qu'il faut gérer le présent de façon à préparer le futur. C'est clair qu'on a besoin aujourd'hui de répression dans ce pays, c'est évident. Et qu'on peut faire, on peut dire ce qu'on veut, on n'échappera pas à la répression. Parce que le présent n'a pas de solution à part la répression. On peut trouver des solutions pour l'avenir, mais là, il y a des cas qui sont perdus. Et comment on gère les cas perdus, à part par la répression?
Didier,
moi, j'ai...
La sortie du président.
J'ai un peu de mémoire, c'est mon grand défaut. Et je trouve qu'il se fout de notre gueule, le président. Parce que
il se moque de nous.
T'aurais été un bon opposant au président.
Non, mais tu vois, quand j'écoutais ça hier soir, j'ai eu une pensée pour Barbara, qui devait hurler devant sa télévision. Parce qu'il a fait que ça, en fait, courir après les faits divers. Oui. Moi, je me rappelle de son premier quinquennat. Ils ont fait que ça, courir après les faits divers. Aujourd'hui, dès qu'il y a un fait divers, le ministre est sur place dans l'heure, quoi. Tu vois, j'ai même, parce que un fait divers en pousse un autre. Moi, j'ai une pensée pour les deux pompiers qui sont morts à Laon, parce que plus personne n'en parle. On en a parlé hier.
Bruno Retailleau était sur place.
Ben voilà. Ils n'étaient pas sortis des décombres. Bruno Retailleau était sur place. Et puis Elisabeth Borne est arrivée 3 heures après le décès de cette pauvre dame à Nogent.
Donc, ils participent à la société d'information.
Ils font que ça, courir après les faits divers. Et comme le dit Mourad, des solutions, ils n'en apportent pas. Mais la présence du ministre, dès qu'il y a une inondation, dès qu'il y a un meurtre, dès qu'il y a un incendie, la présence du ministre est exigée. Alors, peut-être que la société...
Et d'ailleurs, on annonce des mesures immédiatement.
Mais voilà. Et après, ils nous font des leçons comme quoi il ne faut pas réagir à chaud. Enfin, ce que disait Mme Borne l'autre jour.
C'est vrai que c'est arrivé.
Qu'est-ce qu'on en a à cirer de Mme Borne?
C'est le grand paradoxe.
Quel exemple elle peut donner quand elle s'est interdit de vapoter à l'Assemblée, qu'elle vapote, oui, qu'elle s'en fout? Quel exemple on peut donner à nos jeunes déjà, pour commencer? Un ministre qui ne respecte,
que
pas,
je
les,
toujours,
qui respecte
c'est
pas les règlements.
Quand tu arrives derrière un meurtre, derrière un drame, 3 heures après que tu es ministre, et puis que tu fais une interview en disant il faut prendre de la hauteur et du recul, et ne pas légiférer à chaud, tu te moques du monde.
Si aujourd'hui, le problème, c'est qu'ils sont piégés. C'est-à-dire, si aujourd'hui, le ministre n'y va pas, on lui dit pourquoi il n'y a pas été. Bah voilà. Si le soir, il n'est pas sur TF1 à faire des propositions, on lui dit pourquoi il n'y a pas de proposition. C'est pour ça que Bayrou était hier soir, il n'avait pas grand-chose à dire. Donc, il a sorti les portiques, l'interdiction des ventes d'armes, des choses
qui étaient dans les tuyaux. Voilà. Ne confondons pas tout. Les deux pompiers, c'est un fait divers tragique.
Oui.
Et que le ministre y aille, c'est normal, parce que c'est une façon de les respecter.
C'est
aussi une façon de les respecter. Là, on n'a pas à faire. Là, c'est la mort de cette surveillante, c'est pas un fait divers.
On peut rendre bah, hommage à des pompiers qui sont morts dans l'exercice de leur fonction sans forcément prendre un jet, un hélicoptère et y être pour les chaînes d'infos dans l'heure qui suit, quoi.
Bah, on peut y aller sans les chaînes d'infos.
Mais là, c'est vrai, Mourad a raison, les pompiers, tu y vas pour rendre hommage.
Mais t'es pas obligé d'y être dans l'heure, quoi.
Je termine. Et quand tu vas à nos gens, Madame Borne, elle devrait s'excuser. Elle devrait, excusez-moi, mais elle devrait s'excuser auprès des personnels.
Elle devrait déjà s'excuser d'être là.
Désolée, en ministre. Tant que ministre de l'Éducation nationale, et je n'ai pas réussi à protéger Mélanie, qui était une agent d'Éducation nationale.
Non, mais
c'est pas tout à fait la même démarche.
Mais il y a le timing qui compte par rapport à ce que dit Emmanuel Macron. Il y a le timing dans lequel les ministres arrivent sur place qui me gêne, moi.
Fatima.
Alors, je vois ce qu'il essaye de faire. Il essaye de construire l'image d'un homme qui prend de la hauteur,
qui est sur les faux,
qui est au-dessus et qui nous dit sortez. Du zapping, il aurait pu le dire comme ça, sortez du zapping, sortez de la précipitation du commentaire pour aller vers l'analyse. Et pourquoi pas ? Je pense que si c'était un autre, et que si c'était, ou si c'était il y a longtemps, ou si par exemple nous avions une amnésie collective, ça pourrait marcher. Le problème, c'est que c'est lui qui le dit, et donc ça ne fonctionne plus, première chose.
Eh oui.
Deuxième chose, la notion même de fait divers. Moi, je pense au mari. J'ai vraiment l'image de le mari de cette professeure d'espagnol qui a été poignardée aussi il n'y a pas très longtemps. Vous vous souvenez? Et qui dansait seule.
Devant le cercueil, ouais.
Cercueil.
C'est une très belle chanson de Julien Clerc qui vient de faire son mari.
Cette image, elle me hante. Ouais. Ça veut dire, il y a cette image.
On n'est plus
dans des faits divers.
Un fait divers, c'est un fait de société.
Un fait divers répété, un fait divers martelé, un fait divers qui se reproduit avec des protagonistes différents, ça devient un fait de société qu'on va analyser. Les sociologues le font, et on va avoir, il y a des sociologues, sur les RICS, il y a un bouquin, là, il y a Embrouille, où on voit, on n'est pas dans un phénomène isolé, on est dans des mécanismes précis. Et normalement, lui, son recul, c'est de nous dire, ok, j'entends ce qui se passe, je le prends très au sérieux, et pas, parce que finalement, c'est lui qui nous rend fous avec ces formules-là.
Oui, mais pardon, ce qu'il dit derrière, en fait, si j'analyse la pensée macronienne, c'est dire, en gros, il y a un bourrage de crâne, matin, midi et soir, sur l'insécurité. Et d'ailleurs, Laurent Nunez se disait ce matin, chez nos confrères de CNews, il disait, la France n'est pas un coupe-gorge. Oui, donc en fait, Macron, il dit, on ne peut pas faire croire que
les amis, on va pas
France,
nous faire...
la France, c'est que des coups de pédale, etc.
On ne va pas faire deux fois le coup aux gens...
Du tourisme,
écoutez, on ne va pas faire deux fois le coup aux gens du sentiment de l'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité, il y a un sentiment d'insécurité. Non, écoutez, c'est comme les formateurs qui nous ont dit, il faut que les élèves aient le sentiment du passé simple. Apprenez l'erreur qu'une personne, que le il. On n'a pas un sentiment d'insécurité quand on voit à côté de chez soi.
Il est là en train de défendre son bilan, parce que si on dit que la France est un coup blanc,
les amis, j'ai pas entendu BFM et CNews pour savoir qu'il y avait de la violence dans les établissements.
Oui, mais le problème, c'est
tout simplement parce que je le vois.
Il est conscient, Nunez, que tous les parents, quand leurs enfants sortent le soir, se chient dessus tant qu'ils ne sont pas rentrés, qu'ils attendent, il en est conscient. Tellement on a ce sentiment de.
Pour désamorcer. Bien sûr que la France n'est pas un coupe-gorge. En revanche, il y a de l'insécurité aujourd'hui grandissante. Il y a une nouvelle forme de violence qui est là et qui nous fait peur. Moi, je l'ai mesuré encore hier dans mon quartier.
Vas-y.
Où il y a deux jeunes.
Pas le quartier le plus coupe-gorge de France.
Non, et tu veux que je te raconte la scène précisément. Dans le 16e, c'était deux jeunes qui avaient des sacs de tennis dans le dos, qui arrivaient tous les deux en vélib. De jeunes. Donc tu disais, tiens, ils sortent du tennis au Racing, au Bois de Boulogne. Tu vois, des mecs bien du 16e et qui étaient en train de se mettre sur la gueule. Je suis arrivé entre les deux, j'ai dit stop. Ils se sont arrêtés derrière les insultes sur le trottoir.
Ils sont redevenus copains pour
qui se sont envoyés. Je peux te dire que même moi, je dis, c'est pas possible.
Ouais, les gens en vélo étaient des gens.
Tu te demandes, tu te dis, mais vu leur dégaine. C'est pas possible de s'insulter de cette manière.
Y a pas
et donc, si tu veux, il y avait une violence même dans les mots entre eux. Je me dis, c'est dingue. Même moi, j'étais effaré, outré. Et ils étaient prêts sur le trottoir, à se mettre dessus, mais ultra violemment sur un pâté de maison du 16e, habillant la Côte en 16e et en Ralph Lauren.
Là, t'as très bien pu dire ce qu'aurait pu dire le président, c'est-à-dire on peut parler, on peut regretter l'info en continu, le côté abrutissant, on peut s'interroger sur le choix des faits mis en avant, des drames mis en avant, on peut tout ça, c'est autre chose. Mais par contre, dire simplement le problème est là, il n'y a pas autre chose, c'est de la malhonnêteté. Et en plus, les gens n'ont pas besoin d'avoir l'info en continu. Regarde, moi, je n'ai même pas écouté Emmanuel Macron. Je suis allée dormir hier.
C'est terrible.
J'ai donc éteint la télé. J'ai pas la télé, c'est l'ordi.
Pourquoi tu n'écoutes pas le président de la République ?
Non, vous soyez.
Oui, mais voilà.
Mais attends, mais c'est juste pour te dire. J'ai éteint, j'ai essayé de dormir. Et là, qu'est-ce que j'entends ? Juste à côté de chez moi, des mortiers et des feux d'artifice et des jeunes qui jettent des mortiers. J'ai pas besoin de BFM.
Oui, c'est ça.
Pour
la violence,
pour
tu la l'avoir.
Il était 23h. C'était des petits, parce qu'après, j'ai ouvert la fenêtre.
Lui, il la constate
pour
pas,
voir.
Il
vous voyez bien, un petit qui a 11 ans, 12 ans, un vrai petit. Veille d'école, normalement ils ont cours le mercredi. Et en plus je sais, c'est un peu à côté. Le collège, ça se trouve, c'était des miens. C'est pour ça que j'essayais de regarder si je reconnaissais leur tête pour les attraper jeudi. Mais vous voyez bien.
Ce qui est intéressant avec Emmanuel Macron, c'est que régulièrement, depuis 8 ans, il a ces petites phrases qui accentuent le sentiment de déconnexion qu'il pourrait avoir avec le pays.
Et de
souvenez-vous
mépris.
Quand il disait à ce jeune traverser la rue pour faire du boulot.
Les gens qui ne sont rien, on n'oublie pas.
Les gens qui sont rien, etc. Il y a eu plusieurs.
Là, on est des cons, quoi.
Pendant 8 ans, il y a eu quand même plusieurs petites phrases qui vont toutes un peu dans le même sens. Là, les gens sont des cons parce qu'ils regardent trop les chaînes infos et on leur bourre le mou, c'est ça qu'il dit en gros.
Ouais, mais
c'est,
y a aussi
en langage simple, c'est un peu.
Il y a aussi la deuxième bande. Si vous votez pour des gens qui vous apportent la sécurité, vous êtes des cons. Parce que c'est ça qu'il veut dire. Oui. Parce que le message de fond, c'est quand même ne vous retournez pas vers les partis qui vous promettent la sécurité.
Ce qu'avait dit Donald Trump, moi, président des États-Unis, les tueries, ça serait terminé. Il n'y en a jamais eu autant que depuis qu'il est président des États-Unis.
Là, on a vu, il y a un gouvernement.
C'est pour ça qu'au début de l'émission,
la guerre en Vestie,
c'est politique. Et en Europe aussi.
Je crois qu'ils ne peuvent pas tout.
En Europe aussi, là, il y a la fusillade.
En Autriche.
En Autriche.
Un ancien élève.
Après,
un ancien élève. Qui avait été harcelé dans cette école, il a voulu se venger.
Et là, c'est la droite qui est au pouvoir.
Après,
ça dépasse.
On peut débattre des emballements médiatiques, c'est vrai que ça existe. On participe, nous, en tant que journaliste, par des emballements médiatiques sur des sujets qui ne sont pas forcément importants, mais tout d'un coup, tout le monde parle de la même chose. Ça, on peut avoir le débat sur ça. Mais je trouve que le lier à ce qu'on vit, ces faits divers, ces agressions au couteau, je trouve que c'est quand même.
Mais c'est le moment où on le dit, et qui le dit ?
Sur les tueries au couteau, les emballements médiatiques, t'as pas le temps.
C'est un peu indécent.
Ils sont assez rapprochés les unes des autres.
Et puis on a quand même le droit de dire à notre président, en tant que citoyen, on a peur, on n'est pas bien, on est inquiet, sans qu'on nous dise, mais non, tu es en pleine parano, c'est juste un message des Français. Voilà. Ça fait partie des craintes légitimes des Français que le président doit écouter. Et apporter des réponses.
On va l'évoquer avec Alexandre. Il est employé dans le nucléaire. Il nous appelle de la Manche. Et justement, Alexandre, lui aussi est très critique vis-à-vis du chef de l'État en disant qu'il a fait partie du système médiatique aussi, Emmanuel Macron. Donc on va continuer d'en parler. Est-ce que aujourd'hui, effectivement, il y a trop d'emballements médiatiques à propos des drames ? On ne se concentre pas assez sur l'essentiel. À tout de suite au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. RMC, Charles Magnin.
On se retrouve tout à l'heure à 5h en direct pour toute l'info, toute l'actu évidemment, mais aussi de l'humour, des débats, de l'humeur. Et vous, au 32-16, toute l'équipe de Charles Matin autour de moi, Géraldine Demory, Emmanuel Lechypre, Anthony Morel. Et vous, à tout moment, rendez-vous à 5h sur RMC.
Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
GG les grandes gueules sur RMC, RMC Story. On continue notre discussion à propos de l'intervention du président de la République hier. Il estime qu'aujourd'hui, sont aussi les médias, les réseaux sociaux qui rendent un peu fous les gens et qu'on a tendance à ne pas se concentrer sur les sujets de fond. Bonjour Alexandre.
Bonjour à vous les grandes gueules.
Bienvenue Alexandre de la Manche, employé dans le nucléaire. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre réaction alors? Dites-moi.
J'en pense qu'en fait, il a une mauvaise analyse de la situation. C'est pas spécialement, je vais dire, vous, les médias ou même les réseaux sociaux, comme il a pu les cibler, qui sont entre guillemets le mot de cette société générale. C'est plus un climat qui est ambiant. C'est plus même, j'ai envie de dire, de manière générale, peut-être même lui, et vis-à-vis de son gouvernement, en fait, que les Français en ont juste un petit peu ras-le-bol. Il y a un an, il a fait une dissolution, on a tous été votés, et il est venu quelques mois après pour nous dire « Vous n'avez pas compris ce que je voulais faire ». Non, ce que tu n'as pas compris, c'est le message qu'on t'a envoyé. Ce qu'on veut, c'est que tu t'en ailles, et que tu t'en ailles par la porte, et que tu ne reviennes pas. Même si on sait très bien que tu trouveras un moyen de te réinsérer dans le privé, comme tu l'as fait avec tous tes copains, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on veut, c'est que tu t'en ailles, parce que ce moment d'insécurité qu'on est en train de vivre, parce que là, depuis le temps que je vous écoute, depuis à peu près 5 ans, 6 ans, il n'y a pas une semaine où vous ne parlez pas d'un meurtre, où vous ne parlez pas d'une agression, où vous ne parlez pas de quelque chose de dramatique. Et c'est important d'en parler, parce qu'il faut qu'on soit au courant quand même de ce qui se passe dans le pays. Même si vous ne pouvez pas parler de toutes les agressions, de tous ces trucs-là, et je pense que si c'était le cas, je pense qu'on serait encore plus fous dans ce pays à l'heure actuelle.
Non, parce que par exemple, on n'a pas parlé de ce qui s'est passé cette nuit à Joué-les-Tours, où 80 jeunes s'en sont pris aux forces de l'ordre dans un guet-apens, dans un quartier chaud. C'est un syndicat de policiers qui... Mais vous voyez, même ça s'est passé...
On n'a pas eu le temps.
Oui, parce que sinon, ça serait tous les jours.
Mais c'est non seulement en fait vous n'aurez pas le temps, parce que je pense que votre émission de 3 heures faudrait la montrer au moins 6 voire 8 heures sur toute une journée pour pouvoir traiter de toute l'information. Le problème en fait, c'est juste qu'il est totalement en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Personnellement, je ne vote pas pour lui. Je pense que ça, vous en doutez bien. Mais il est dans un moment où je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est déconnecté. Alors, je ne sais pas si c'est les petites querelles qu'il a avec sa femme au niveau d'un avion ou autre chose qui lui monte un peu au cerveau et qui commence à citer des choses un peu invraisemblables. Enfin, faut vraiment qu'à un moment donné, il se rende compte que nous, on en a marre de ce climat d'insécurité, et on en a marre de lui par rapport à son inefficacité.
Donc vous souhaitez, souhaitez le départ du président de la République, là, d'une élection présidentielle anticipée.
Mais excusez-moi de le dire, mais ça va continuer jusqu'à quand? On a encore une...
Là, deux ans.
Vous en parlez là, il y a une dame de 31 ans qui s'est fait agresser au couteau. Ces mesures de sécurité, c'est, excusez-moi du terme, le Premier ministre, M. Bayrou, c'est je vais interdire la vente de couteaux aux mineurs. Ouais, ça me semble logique. On va arrêter les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Mais ça me semble logique aussi. À quel moment, en fait, vous allez juste vous attaquer au cœur du problème qui est lié à l'éducation? Vous en parliez tout à l'heure par rapport à l'Europe qui n'arrête pas de venir foutre son grain de sel dans l'éducation de nos enfants, parce que je suis parent, moi, de 3 jeunes enfants, donc je suis là-dedans, et moi, l'éducation, je suis désolé de la dire, je vais pas mettre des tartes et tout ça à mes enfants, je fais pas ça, mais j'ose la voix, je montre que je suis autoritaire. Il y a un cadre, tu dépasses pas le cadre. Tu parles pas mal aux gens, tu dis bonjour, tu dis au revoir, tu dis merci, tu dis s'il te plaît. C'est du respect. Le respect, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et chers parents, si j'ai un message à vous faire passer, si vous n'êtes pas capable de tout simplement éduquer des enfants, merci de mettre du plastique. Parce qu'à un moment donné, on en a marre, si vous voulez, de cette
éducation. C'est plus efficace que plastique.
Le
tout, c'est qu'ils n'ont pas d'enfants, on a compris le message, Alexandre.
Vous n'avez pas l'impression que le principal malaise aujourd'hui dans notre pays est que nous vivons tous très mal, c'est qu'on est en dictature. Puisqu'on est dirigé. On est dirigé par des gens pour qui on n'a pas voté. C'est qu'il y a une grande première.
Emmanuel Macron, il a été voté.
Non, mais je ne parle pas d'Emmanuel Macron, je parle du gouvernement. C'est celui qui dirige la politique intérieure du pays, c'est le gouvernement, ce n'est pas Emmanuel Macron. Donc, on est aujourd'hui des gens qui représentent entre 3 et 5% des voix et qui nous dirigent.
Un peu plus.
Et qui, accessoirement, ils n'ont aucune légitimité électorale, les gens qui sont au gouvernement. Et en plus de ça, ils ne tiennent absolument pas compte de l'avis de la majorité des Français. Moi, j'appelle ça une dictature. Après, vous appelez ça comme vous voulez, mais on en est très proche. C'est-à-dire que quand tu es pas... Quand t'as pas une légitimité électorale, et qu'en plus, malgré ça, tu ne suis pas ce que veulent la majorité des Français, il y a un vrai problème. Non. C'est ce qui se passe dans les dictatures. Aujourd'hui, c'est ce qu'on subit
Il y a une alliance.
je comprends aussi bien la gauche que le Front, que le Rassemblement National, pardon, qui aujourd'hui représente 25-30% des voix pour chacun, d'accord. Et qui se disent, bah, finalement, ce sont ceux qui ont fait 4 ou 5%.
Je suis d'accord.
C'est un vrai problème. Moi, je suis un démocrate, oui, et j'accepte moi, que des gens pour qui je n'ai pas voté, mais qui représentent la majorité du pays, dirigent mon pays.
C'est, aujourd'hui, c'est ceux qui sont arrivés 3e de la dernière élection, c'est
dernier, le bloc central, dernier.
Plus ceux qui sont arrivés 4e ou 5e, c'est-à-dire la droite qui gouverne, c'est sûr.
On a un gouvernement qui n'a aucune légitimité électorale.
C'est pas ça qui a motivé le jeune de 14 ans.
Ça crée un malaise dans le pays quand même.
Jean-Pierre veut en parler avec nous. Et je remercie Alexandre.
Oui, c'est pas le malaise qui a l'origine des couteaux.
Attends, bonjour Jean-Pierre.
Je vous écoute.
Allez-y, bonjour, allez-y alors. Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Pierre. Alors, Mourad, il a complètement raison.
Hein. Il a un bel accent là. Il vient d'où cet accent?
Il vient de Marseille. Mais par contre, M. Macron, roi de la communication, il a totalement raison en disant les chaînes d'information, tatati, tatata. Parce qu'il faudrait les arrêter pendant un mois ou deux. Les 4 chaînes d'information, les arrêter. En revenir à TF1, là, vous voyez, les journaux à midi et le soir.
À l'ancienne.
Vous verrez que déjà, ça ferait tomber le stress. Et après, comme vous avez dit précédemment, puisque ça a été, on a parlé de M. Macron, il faut qu'il parte, ce monsieur. Puisque tout ce qu'il a fait, ça a échoué. Il se servait de la communication, parce que tous les gens qui sont au gouvernement, comme disait Mourad, où on les voit sur les plateaux télé, à dire oui, mais vous allez, comme parle M. Béroux, hein, vous allez voir dans 6 mois, vous allez voir dans... Ça fait 10 ans qu'ils sont là.
Mais Jean-Pierre, c'est vieux comme le monde d'accuser les médias lorsqu'il y a un problème.
Non, j'accuse pas. Rappelez-vous quand j'avais le magazine Détective, c'était toutes les vieilles personnes, les retraités, qui lisaient ce magazine où il y avait tous les faits divers les plus sordides de France.
Ils ont inventé même.
Et puis ça, chassé dans les bas.
Mais Jean-Pierre,
beaucoup de gens s'informent sur les réseaux sociaux et plus sur le.
Attendez, Jean-Pierre, avant les chaînes info.
Les réseaux sociaux, je suis pas, moi. Je connais pas.
Avant les chaînes info, il y avait déjà ce procès. Je me souviens que lorsque Lionel Jospin est battu à l'élection présidentielle, les socialistes accusent TF1 d'avoir fait monter des faits divers juste avant le premier tour. Vous voyez, c'est vieux comme le monde. Oui, mais ça, c'est parce que ça permettait à la gauche de. Non, mais ça permettait à la gauche de trouver un bouc émissaire.
C'est des milliardaires qui tiennent les chaînes d'information, messieurs.
Mais même donc, le TF1.
Et quand ils veulent faire monter la mousse, ils feront monter la mousse.
En même temps, Jean-Pierre, après les attentats du Bataclan, après les attentats en France, ou quoi, Charlie Hebdo, le Bataclan, on s'entendait tous à une montée extrême dans le pays. Ça n'a pas été le cas. Le pays s'est bien tenu. Donc ça vient, et pourtant, les chaînes d'info, on en parlait.
C'est-à-dire
que les gens ont une conscience quand même dans notre pays.
Alors attendez, Jean-Pierre. Non, mais juste, non, quand c'est Jean-Pierre qui pose la question et quand il pose ce sujet, là, on peut en débattre. C'est un sujet intéressant. C'est différent quand c'est le président, parce qu'on voit que l'enjeu n'est pas le même. Donc, les questions que pose Jean-Pierre sont très justes. La question de l'information en continu, c'est une vraie question. Et c'est une question sur l'impact sur la démocratie ou sur l'information. On peut se la poser. L'impact pour les milliardaires, le fait que peu de gens détiennent une partie de la presse, on peut aussi poser la question. Est-ce que la liberté d'information, la diversité de l'information, c'est essentiel pour la démocratie. Donc on peut poser ces questions. Le problème, c'est que Emmanuel Macron la pose maintenant et on sent que là, il y a une forme de stratégie.
Est-ce normal aussi d'avoir une télé d'État, quoi.
Johan veut intervenir aussi. Johan, bonjour.
Oui, salut tout le monde.
Johan, alors sur quelle ligne êtes-vous? Quelle est votre réaction? Alors dites-moi.
Moi, je n'incrimine aucune chaîne d'info parce que je me cache pas que je vous regarde BFM et CNews. Mais c'est vrai que vous avez tendance à monter très vite au créneau sur, comme ce qui s'est passé hier, à très vite monter au créneau et à faire du continu là-dessus. Et je pense que c'est assez barbant parce que vous ne savez pas tout ce qui se passe dans le pays. C'est ça le problème. C'est que vous prenez. Est-ce que vous lisez les journaux régionaux, locaux et ainsi de suite. Mais vous en avez tous les jours des faits divers comme ça. Et si vous deviez le traiter, ça serait interminable. Et M. Macron, pour revenir à lui, mais vu qu'apparemment on est assez bête depuis très longtemps et on est con à regarder certaines chaînes d'infos ou autres, une chose est sûre, je vais rejoindre Mourad. Vaut mieux qu'il fasse attention parce que je pense que la révolution pourrait arriver assez vite parce que les gens en ont vraiment très très marre et c'est peut-être pas une chose qui serait bonne pour tout le monde.
Je pense qu'il y a un vrai ras-le-bol dans le pays.
Ah mais oui, mais c'est
je suis persuadé que Christelle sera le banc.
J'en ai plein le cul.
Je suis persuadé que
Attends, allez-y.
J'en ai plein le cul de me lever et tous mes collègues artisans en ras-le-bol parce que plus on bosse, moins on en a et plus on voudra en donner à nos employés. Je rejoins encore Mourad sur d'autres émissions précédentes où j'étais absolument d'accord avec lui. Et le problème, c'est que on peut pas arrêter parce qu'il nous tient à la gorge ce con. Parce que si on s'arrête, eh bien, ça rentre pas et vous inquiétez pas, les charges, ils viennent vous les chercher quand même.
Vous verrez qu'il y aura un petit élément déclencheur, une goutte d'eau qui fera tout exploser.
Quand, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, il y a du monde qui aimerait lui mettre un grand coup de pied au cul en lui disant que tu commences à nous
casser les pieds. Johan, vous pouvez pas employer ces mots-là vis-à-vis du président de la République. Vous pouvez pas condamner la violence en employant vous-même des termes irrespectueux vis-à-vis du chef de l'État. Très franchement.
Je
sais que c'est peut-être le cadet de vos soucis, mais si vous voulez.
Mais parce qu'il est tellement déconnecté, il ne se rend pas compte.
Ce que j'entends, Johan, je vous garantis,
il y a du monde qui est plus
pire que moi. Hein. Mais il est surtout déconnecté par ses conseillers qui lui cachent la réalité.
On est quand même dans une situation un peu dangereuse. C'est-à-dire qu'il y a un ras-le-bol. On est à la fin de sa présidence et il cristallise quand même beaucoup de colère. Moi, je suis étonné à la colère et la haine qui peut cristalliser Emmanuel Macron.
C'est vraiment personnel.
Il faut sortir un peu de Paris. Parce que peut-être à Paris, c'est encore un peu macroniste. Mais en dehors de Paris, sincèrement, moi, quand les gens m'interpellent sur Emmanuel Macron, je suis obligé de prendre sa défense.
Mais tu connais cette formule sur
les gens sont très violents, très haineux.
La rage née de l'humiliation. Il a semé des petites phrases humiliantes au long du truc.
Il y a une situation politique bloquée. C'est-à-dire que de toute manière, même lui, quand il dit qu'il faut interdire les réseaux, il ne peut pas parce qu'il n'a pas la majorité. On a une situation bloquée politique. On a un président de plus en plus rejeté. C'est vrai que c'est des conditions et une situation économique qui n'est pas florissante.
Dans l'agacement des gens, t'as quand même aussi le fait que, enfin, on a fait l'émission là-dessus, que les solutions proposées par les politiques, les gens qui ont un peu de bon sens, le reçoivent comme inapplicable. Enfin, tout le monde sait très bien qu'on ne va pas interdire les réseaux sociaux. Tout le monde sait très bien qu'on peut mettre trois gendarmes derrière chaque grille d'entrée de collège. Ça n'empêchera pas, puisque là, les gendarmes, ils étaient présents. Et à un moment donné, l'agacement des gens qui s'expriment à travers... J'ai oublié son prénom.
Johan.
Il y a quelque chose de l'ordre de... Non seulement vous n'avez rien fait, mais ce que vous nous proposez pour régler le problème, on sait d'ores et déjà que ça ne s'applique pas.
Oui, mais regarde la première des colères de Johan.
Il parle surtout aussi de ses enfants. C'est-à-dire que, non, il parle de ça aussi.
Et de son travail.
De son travail. Donc c'est aussi la colère du travailleur. Mais tu vois, ça veut dire, c'est aussi le bon élève. Je fais tout bien. Je travaille, je devrais m'en sortir, je devrais pouvoir mettre mes enfants à l'abri, sentir mes enfants en sécurité, ça veut dire je demande le minimum, c'est les gens qui demandent le minimum, vivre correctement. Et ceux-là, ils se disent, non mais attends, le minimum, je ne peux pas l'avoir. Elle naît de là, la colère. C'est comme au début des Gilets jaunes, on disait, c'est la colère aussi du travailleur qui se dit, mais j'ai l'impression de me faire avoir de tous les côtés. C'est la classe moyenne qui se dit, mais bien entendu,
elle a déjà
dit.
C'est
comme les puces de liste, parce qu'on n'en parle pas, qu'elle n'est pas là.
C'est comme quand il a dit, il suffit de traverser la rue. Je veux dire, il y a des tas de gamins qui sortent de l'école, qui sont surdiplômés et qui galèrent, qui sont ingénieurs ou n'importe quoi, qui galèrent pour trouver du boulot, qui n'arrivent pas. Si, ils vont trouver un boulot de service. Et lui, il les fait passer pour des cons. Il leur dit, si tu n'arrives pas à trouver du boulot, c'est parce que c'est un con. Regarde, il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Ça veut dire qu'il est complètement déconnecté par rapport à la souffrance de nos gamins qui sortent de l'école. Et ce n'est pas le rôle d'un président, ça.
Je vous remercie, Johan, d'avoir été avec nous. Illustration supplémentaire de la colère aujourd'hui dans le pays. Alors, les faits divers, est-ce que c'est aussi la faute des médias? Est-ce que les médias en font trop? Est-ce que le président de la République a raison de pointer du droit la responsabilité des médias? C'est à 67%. Puisqu'on parle de colère, il y a une profession qui est retournée dans la rue. En voiture, ce sont les taxis. En ce moment, ils bloquent les aéroports d'Orly, les aéroports de Roissy. Taxis, visiblement, on n'a pas réglé le conflit. Est-ce que le gouvernement doit céder sur la question du transport sanitaire? C'est au 32-16 que ça se passe avec vous, il est 11h20.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.
C'est Vincent Moscato sur RMC. Je vous interromps. Car si vous vouliez écouter le Super Moscato Show, c'est pas maintenant, hein? Alors attention, je vous dis pas d'arrêter d'écouter, comprenez-moi bien. L'émission actuelle est une très bonne émission et vous avez raison de l'écouter. Mais le Super Moscato Show, c'est du lundi au vendredi de 15h à 18h. Alors à tout à l'heure, 15h sur RMC.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ? Sur RMC.
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff, RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Il est 11h moins le quart. Fatima Aïd, Bounoua, Mohamed Boudjelal et Didier Giraud sont là. Et dans un quart d'heure, nous serons rejoints par la magistrate Béatrice Brugère pour parler de la justice des mineurs face à cette violence qui monte chez des jeunes de 14 ans, parfois même 13 ans, 12 ans, quand on voit ceux qui tirent au mortier d'artifice sur les policiers. Bon, on en parlera tout à l'heure avec Béatrice Brugère. D'abord, on va regarder un peu ce qui se passe du côté des taxis. Après une pause d'une semaine, comment pourrait-on dire, les hostilités reprennent. Bien sûr, vous aurez reconnu la musique du film Taxi. En fait, pendant 10 jours, les taxis ont dit on va réfléchir, on va écouter. On attend les propositions du gouvernement. Sauf que, bah pour le moment, rien n'est venu, notamment de la part du ministère de l'Économie et des Finances, ou plutôt, c'est de dire, la réforme telle qu'elle est envisagée s'appliquera. En revanche, on est prêt à taper sur les VTC.
Oui, enfin, tout d'abord, rien n'a été réglé avec les taxis, pardon. Hein. Et là, François Bayrou, c'est l'art de gagner du temps. Il y a une nouvelle réunion ce matin au ministère de la Santé, sans doute celle de la dernière chance. Donc les taxis remettent la pression. Ils étaient partis du boulevard Raspail, je peux en témoigner, ils ne sont plus là, mais là, ils reviennent, notamment entre Orly et Paris, ils bloquent ce matin, ils bloquent aussi devant Bercy. Ce que disait Dominique Buisson, qui est l'un de leurs représentants, on est parti sur un rapport de force pour que ce soit un blocage du pays. C'est-à-dire que les taxis, ils vont pas non plus se faire, comment dire, enfumer trop longtemps. C'est-à-dire qu'on leur dit, mais si, vous allez voir ce que vous allez voir, il se passe rien. Donc là, on a une colère. En plus de gens qui travaillent, les artisans taxis, après, on peut parler du transport sanitaire, est-ce qu'il y a des abus, est-ce qu'on dépense trop, mais enfin, c'est quand même la France qui travaille, qui n'est pas contente, elle n'est pas la seule, et c'est une colère qui peut se propager.
On est sur la 13 avec Alexandre qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Alexandre.
Bonjour les GG, comment ça va?
Bien Alexandre, donc la 13 c'est l'autoroute qui part de Paris, qui va vers l'ouest, vers la Normandie. Vous êtes en train de bloquer ou pas?
Bien sûr, on bloque parce que déjà on est bloqué aussi par les policiers parce qu'ils ont tout un système pour parquer les taxis. Parce que nous on converge vers Bercy. C'est le point de base, c'est Bercy. Et on a des collègues qui sont bloqués sur la 6, sur la 4, sur la 14. Et tout est bloqué partout. Moi, personnellement, je suis pas pour le blocage des usagers. Je suis désolé. Mais au bout d'un moment, il faut bien se faire entendre. Et oui, comme vous le disiez à juste titre, juste avant, Macron, il est temps qu'il dégage parce qu'il fait beaucoup trop de mal à cette France. Et les gars, moi, je travaille 3 fois plus qu'il y a 5 ans. Je gagne 3 fois moins.
Donc, comment vous expliquez que vous gagnez 3 fois moins aujourd'hui, Alexandre?
Parce que je travaille comme un forcené, mais on a l'URSSAF, on a la TVA, on a les charges fixes. Moi, j'arrive à la fin du mois, je m'en sors pas.
C'est quoi la charge fixe qui a augmenté?
Ben, nous, tout a augmenté. Vous regardez, il suffit de regarder le prix des carburants, déjà. Les oui. révisions.
Mais
les révisions
on vous rembourse, vous êtes remboursé en partie sur la TVA, ça?
Non, mais remboursé sur le carburant. Ça, c'est un jeu. Même ça, on n'en a plus. Avant, on avait la TCIPP et on l'a plus. D'accord. On l'a plus. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que justement, avant, on avait un remboursement à hauteur de 5000 litres. Ils nous remboursaient 1000 et quelques balles à la fin de l'année. Même ça, on nous l'a supprimé.
D'accord. Mais gars, ça, c'est une charge fixe supplémentaire, on est d'accord, oui.
Oui, oui, on a tout, les révisions des véhicules, ça a triplé. Tout, la moindre petite pièce, vous la payez 3 fois plus cher qu'il y a un an ou il y a 2 ans. Donc je suis désolé, au bout d'un moment...
Mais ça vaut pour tous les automobilistes. Hein.
Oui, mais tous les automobilistes, bien sûr. Mais nous, là, on défend notre métier. Parce que vous savez ce que M. Macron il veut faire? M. Macron, il veut donner le transport médical, sanitaire au VTC et au Uber. Vu que c'est lui qui les a fait entrer en France.
Suis d'accord avec vous. Moi, je suis plutôt défenseur des taxis. Hein. Je suis abonné, j'ai un abonnement, G7 et tout. Mais par contre, là, je ne vais pas vous défendre. C'est que... Je ne vous trouve aucune légitimité à bloquer le pays. Ça n'a rien à voir. Avec faire grève et bloquer le pays, c'est 2 choses différentes. Si quelqu'un veut prendre son avion aujourd'hui pour aller à Roissy, je vois pas en quoi il est responsable des problématiques des taxis et en quoi il doit être celui qui paye pour le gouvernement. C'est ça que je n'accepte pas. Et ça vaut pour votre profession comme pour toutes les professions.
La région parisienne
toutes les professions.
Bloquée, là,
hein. Faire grève, ce n'est pas bloquer un pays.
Donc,
moi, faire grève, c'est s'arrêter de travailler. Donc, oui, parce que si vous arrêtez de travailler, ça va casser les bonbons à plein de gens parce qu'on a besoin de taxis, c'est clair. et que ça va pénaliser
bloquer la France qui travaille.
Vous allez bloquer la France qui travaille. C'est une bonne façon aussi de mettre la pression. Mais une fois de plus, s'en prendre à des innocents, des gens qui n'ont rien à voir et qui même probablement sont plutôt de votre côté. Je trouve pas que ce soit très constructif.
En ce moment, il y a des manifestations sur l'autoroute A1 vers Paris, l'autoroute A13, circulation difficile également sur la 6B. Enfin bon, je suis en train de regarder Citadin. Ça, c'est de plus en plus rouge.
Je vais vous annoncer les GG, c'est pas fini. Parce qu'aujourd'hui, c'est le mot de la fin, c'est ça. C'est que même s'il faut mettre le feu, on va mettre le feu. Je suis vraiment désolé, au bout d'un moment.
Oui, c'est une question de rapport de force.
Pour vous, c'est une question de survie financière, Alexandre?
C'est une question de survie.
Et cette histoire de transport médical où vous facturez le retour à vide?
Qui facture le retour à vide, mon cher ami?
Dans votre faire, c'est que les taxis, dans le transport médical, lorsqu'ils transportent une personne, s'ils reviennent à vide, ils vont facturer le retour à vide.
Mon cher ami, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde raconte.
Non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai?
Pas vrai. D'accord. Moi, ça fait cinq ans que je fais du transport médical. On a un tarif qui est imposé par l'État, par le gouvernement. Ouais. On applique le tarif. Soit on va avec le client, attente et retour, donc c'est le tarif minimum. Soit on dépose le client et le patient et on fait le retour à vide. On n'est pas payé pour le retour.
Vous n'êtes pas payé pour le retour.
C'est pas le même tarif que les VSL.
C'est pas ce que nous disait un taxi il y a 15 jours.
Non, mais mes chers amis.
Donc il y en a un des deux qui ment. Je ne sais pas lequel, mais il y en a un des deux qui ment.
Il ne faut pas écouter tout et n'importe quoi. Par contre, posez-vous juste une bonne question. Est-ce que vous avez déjà vu dans un pays comme la France, en espace de 5 ans, il n'y a jamais eu autant d'entreprises d'ambulance? Posez-vous la question, pourquoi?
Ah, ça, c'est un métier qui rapporte, on est bien d'accord.
Ah, ben je suis désolé. C'est qu'ils sont 6 fois plus chers qu'un taxi. Mais là, tout le monde peut y aller. Je suis désolé, j'ai rien contre les ambulanciers. Mais
arrêtez les taxis, faites ambulancier alors.
Ben oui.
Non, mais moi, personne m'oblige à faire ce que j'ai pas envie de faire. J'ai commencé comme taxi, je finirai comme taxi parce que je le veux et j'aime ces métiers. Donc je le défendrai corps et âme. Alors,
oui, mais Alexandre, merci de votre franchise. Alexandre qui est sur la 13. On a Maïlis qui nous appelle, qui lui est sur la 6, c'est ça? Bonjour Maïlis.
Allô, bonjour.
Vous êtes sur la 6, c'est ça?
Entre Paris et Orly?
Absolument, voilà, exactement. On est sur la 6B. Ouais. Alors moi, je suis un taxi de Pau. J'étais sur la première manifestation de Pau et aujourd'hui, enfin, nous sommes montés hier soir.
Vous avez eu au téléphone?
Exactement. On est montés hier soir pour être à Paris aujourd'hui.
D'accord. Ah oui, de Pau,
moi,
vous êtes
montés. Je peux vous dire qu'il y a le comité de réception à Bercy. Hein.
Oui, ben c'est bien, mais on avait le comité de réception.
C'est devant ce matin, il y a ce qu'il faut.
Ça s'est très bien passé, il n'y a pas de souci.
Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut marquer votre présence, le rapport de force pour faire payer le gouvernement?
C'est pas faire payer le gouvernement, c'est pas faire payer le gouvernement, c'est faire entendre au gouvernement qu'on ne peut pas ubériser cette profession. Ce n'est pas possible. Nous sommes des artisans, nous sommes des petites entreprises et nous voulons que le gouvernement nous écoute. Aujourd'hui, on a le problème des plateformes et ça, on en a parlé. On a le problème de la convention qui, sur des points bien précis, ne peut pas fonctionner. On est d'accord que sur la convention, en local, sur certains types de trajets, ça fonctionnera. Par contre, ce qui nous fait peur, c'est la ruralité. Et ça, il faut bien l'entendre. Aujourd'hui, on va avoir un problème sur la ruralité. Et pour les plateformes, nous voulons une application de la loi. C'est pas plus compliqué que ça. Ça ne coûte rien au gouvernement. Nous voulons que la loi soit appliquée et que derrière, on protège la profession des taxis. Indirectement, je vais vous dire, ça protégera les VTC qui font bien le travail. Ça va juste éliminer tous ceux qui ne doivent pas exister, c'est-à-dire les fausses cartes, tous ceux qui truandent et qui ne respectent pas les règles.
Mais il y a qu'à les contrôler,
le nouveau patron de l'assurance, enfin le nouveau, oui, je crois qu'il vient d'arriver, le patron de l'assurance maladie expliquait que les taxis seraient pour certains gagnants avec cette nouvelle convention. Oui. Je rappelle que c'est un nouveau système qui doit reposer sur une prise en charge de 13 euros par la Sécu, puis un tarif kilométrique.
Alors, je ne vais pas rentrer dans toute l'explication des tarifs parce que c'est hyper compliqué et qu'en fait, les auditeurs ne comprendront pas. Sur de la très petite distance, probablement qu'on sera gagnant. Mais aujourd'hui, nous, ce dont on vous parle, c'est la ruralité. Quand vous allez chercher quelqu'un à 30 km d'une grande ville, eh bien, en fait, ce sera tellement pas rentable pour nous d'aller aider les sociétés d'ambulance, etc., que nous n'irons plus. Et c'est là où ça va poser le problème.
Et les taxis en ruralité ne vivent que par le médical. Et
parfois, deux tiers.
Cet état de fait-là,
n'est que la conséquence du non-maillage du territoire, je dirais, en termes d'hôpitaux. Quoi. À un moment donné, quand tu fermes des hôpitaux locaux et puis que tu ne gardes plus que des grands centres régionaux, eh ben, les gens, ils ont besoin de transport pour se rendre à l'hôpital.
C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a organisé les déserts médicaux et puis maintenant, on reproche aux taxis de faire beaucoup de kilomètres pour simplement
alimenter ces déserts médicaux.
Permettre à une personne âgée d'aller faire son examen.
C'est deux problématiques différentes, les conséquences des choix politiques et la ruralité.
Pardon, excusez-moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment, on a été là parce qu'on nous a demandé d'être là. Et là, du jour au lendemain, on nous dit, finalement, vous coûtez trop cher, vous dégagez. Ça ne peut pas se passer comme ça. En plus, il y a des entreprises, il faut savoir qu'en ruralité, excusez-moi, il y a des entreprises avec des salariés. J'ai parlé avec des Corréziens hier, ils m'ont dit... 1er octobre, on licencie tout le monde. On ne pourra plus les payer.
Mais en fait, ce que veut faire le gouvernement, enfin l'assurance maladie, c'est en fait rationaliser quand même vos allées et venues. Par exemple, avec le transport partagé, est-ce que vous pouvez prendre plusieurs patients qui vont à l'hôpital au même moment?
Il n'y a pas de souci, on le fait déjà. Mais vous savez, le transport partagé est plus facile à organiser sur des endroits denses où vous avez beaucoup de patients que quand vous commencez à aller dans des petits villages séparés. C'est beaucoup plus compliqué à mettre en place.
Et puis, je ne suis pas sûr que l'un taxi, ce soit un lieu de convivialité pour deux personnes qui ont une maladie grave. Quoi.
Dans tous les cas,
un cancer de quoi, toi?
Ça aussi, c'est une information aussi pratique de circulation si vous êtes sur Paris, région parisienne. Alexandre est en cours de blocage sur la 13. Malice, elle est en ce moment sur la 6. Et tous convergent. Vous êtes combien de taxis, Maëlys, en ce moment, là?
Voilà, je crois qu'on est aux alentours des 1500 taxis.
En
partant d'Orly, hein, parce que vous avez
donc vous allez bloquer une bonne partie de la région parisienne.
Et vous allez vers Bercy, vers le ministère de l'économie. Absolument. Voilà, ça promet. Dans un instant, la magistrate Béatrice Brugère avec nous.
RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules. Sur RMC, tous les matins dès 6h30, commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire, des réveils, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h30-9h.
Ok Google, mais RMC.
Ok.
RMC est disponible sur toutes vos enceintes connectées. RMC, partout, tout le temps.
RMC, demain, c'est vendredi 13.
Et comme tous les vendredis 13 sur RMC, vous avez de fortes chances de gagner de l'argent. Toute la journée, des tickets à gratter, jusqu'à 13 000 euros à gagner.
Pour jouer, inscrivez-vous dès maintenant. Envoyez chance par SMS au 732-16. Chance au 732-16.
Demain, provoquez la chance. Gagnez jusqu'à 13 000 euros sur RMC.
Trop pressé aujourd'hui?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff.
RMC. 9h, midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les Grandes Gueules, en direct sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules, avec aujourd'hui l'éditeur de bande dessinée Mourad Boudjelal, l'agriculteur de Saône-et-Loire Didier Giraud et Fatima Hidbounois, qui est professeur de français. Tout à l'heure, à midi moins 20, on conclura l'émission avec ce que propose un collectif de députés. Alors, vous savez, on dit députés transpartisans, c'est-à-dire qui représentent tous les bords politiques. Et ce qu'il propose, c'est une visite d'aptitude à la conduite tous les 15 ans. Mais en fait, cette visite d'aptitude...
Un combat pour les sénateurs.
À partir du moment où vous avez votre permis de conduire, elle est instituée tout de suite. La visite d'aptitude tous les 15 ans, et puis après, les visites se rapprochent au fur et à mesure que vous prenez de l'âge.
Une sorte de contrôle technique du conducteur.
C'est un peu ça. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Vous venez en parler tout à l'heure avec nous à midi moins 20. Mais d'abord, on va parler justice, justice pour les mineurs, justice de la jeunesse avec une magistrate.
RMC, face aux Grandes Gueules.
C'est Béatrice Brugère, magistrate. Bonjour Béatrice Brugère.
Bonjour.
Secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO qui est avec nous. Alors, on va bien évidemment reparler de ce jeune de 14 ans qui a tué cette assistante d'éducation hier à Nogent. Mais je vous propose d'écouter Stéphanie. Stéphanie, c'est la mère d'Elias, la maman d'Elias. Elle était l'invitée
de RMC BFM TV hier matin. Il y a ce jeune tué d'un coup de machette, vous savez, dans le 14e arrondissement parisien, tué par deux jeunes qui étaient connus des services de police, multirécidivistes, qui eux-mêmes avaient interdiction de se rencontrer et qui pourtant étaient ensemble. Voilà ce que disait la mère d'Elia, Stéphanie, hier matin.
Les juges des affaires familiales, lorsqu'ils prennent cette décision, ce n'est pas un manque de moyens, c'est un manque de lucidité. On ne peut pas se moquer de nous. Soit on nous cache quelque chose, ou alors la justice est injuste avec les victimes, et les victimes n'existent pas aux yeux de la justice. On a bien compris le principe de l'indépendance de la magistrature. Néanmoins, nous, on estime que les victimes ont le droit à des explications et des argumentaires. On a l'impression, nous, que les juges, ils n'écoutent pas les victimes, que la justice défende enfin Elias.
Qu'est-ce que vous pouvez répondre à la mère d'Elias? Elle se pose beaucoup de questions sur la justice et sur notamment le fait que les juges ne s'expliquent jamais sur leurs décisions.
Oui, alors... Bon, d'abord, elle pose la question du diagnostic, qui me semble la question la plus importante, c'est-à-dire, finalement, c'est quoi juger? Parce que c'est ça la question, elle dit, mais on a l'impression, en fait, que finalement, on n'a pas d'explication, et donc, de façon un peu, j'allais dire, cachée, elle pose la question, qu'est-ce qui fait qu'un juge prend telle ou telle décision? Donc, le diagnostic, et qui me semble intéressante, comme question, parce que c'est vrai que les parties civiles, les victimes, ne comprennent pas toujours nos décisions, premièrement. Et puis, la deuxième chose sur laquelle elle appuie, et je pense qu'elle a raison d'appuyer, c'est le traitement, aujourd'hui, des victimes qui, à mon avis, n'est pas à la hauteur. Alors, pour plein de raisons, hein, c'est pas nécessairement parce que les magistrats se détournent de la question des victimes, mais c'est pas dans la culture. En fait, la place de la victime, aujourd'hui, dans le code de procédure pénale et dans le traitement général, est une place finalement assez subsidiaire, pour pas dire secondaire. Donc moi, je pense que c'est très important de travailler là-dessus, de continuer à travailler là-dessus. Alors, il y a eu des choses, hein, qui ont été faites, notamment, vous savez, sur les victimes des attentats terroristes, mais ça, c'est juste une petite partie. Donc, je pense que la question de la place de la victime est très importante. Et ce que les victimes ou les parties civiles ressentent, c'est aussi souvent un défaut d'information. C'est-à-dire qu'ils subissent une procédure d'abord très compliquée. Ils sont obligés de prendre des avocats. Ils ne comprennent pas toujours comment ça fonctionne. Ils n'ont pas nécessairement un accès à l'information. Alors là, c'est une instruction, donc c'est contradictoire. Mais les instructions, ce n'est que 2% des affaires. J'insiste là-dessus. 98% des affaires, les enquêtes ne sont pas contradictoires. Donc, elle encore, elle aura la chance d'avoir accès à la procédure, même si c'est déjà un parcours très difficile et très long.
Oui, mais vous voyez bien, la mère de Stéphanie, ça voudrait comprendre pourquoi un juge avait décidé une mesure d'éloignement des deux gamins qui ne pouvaient pas être respectés puisqu'ils vivaient dans le même immeuble.
Et personne ne s'en est rendu compte.
Elle voudrait savoir pourquoi, oui, finalement, on n'a pas pris la mesure de la dangerosité
de ces jeunes. De lucidité.
C'est ce que je vous dis sur la question du diagnostic, c'est-à-dire qu'est-ce qui est au fondement d'une prise de décision, c'est-à-dire quel est le discernement qui fait que...
Quand un médecin fait une erreur médicale, il peut être poursuivi. Si un journaliste dit une bêtise au micro, il va être sanctionné par sa direction, mais aussi par l'ARCOM, il y a toute la procédure. On a l'impression que les magistrats échappent à tout, finalement, tout contrôle, ou en tout cas à toute remise en cause de leurs décisions, une décision qui peut avoir des conséquences dramatiques, et ça a été le cas avec l'affaire Elias.
Moi, je trouve que son questionnement, il est légitime de comprendre pourquoi un magistrat prend telle décision ou pas telle décision. Après, c'est là où il y a une question de pédagogie, mais il y a aussi une question de responsabilité, c'est-à-dire rendre des comptes. Moi, je n'ai pas peur de cette question. Je pense qu'elle est même capitale dans la légitimité de l'action de la justice. Donc, la question, je la trouve tout à fait légitime.
Mais j'ai l'impression, parce que vous dites, elle pose, c'est une question de pédagogie, c'est une question d'information. Vous avez dit accès à l'information, ouais, défaut d'information. Mais moi, ce que j'entends dans la question de cette maman, c'est la question des dysfonctionnements aussi.
Exactement. Mais pour...
Donc, y a-t-il eu un dysfonctionnement? Quand on dit des gens n'ont pas à se rencontrer, comment ça se fait qu'ils se rencontrent? C'est ça qu'elle demande aussi.
On sait qu'ils habitent dans le même immeuble.
Oui, voilà. Alors, vous voyez, c'est ce qu'elle demande aussi, je pense. Hein. La question du dysfonctionnement. Et comment on juge un dysfonctionnement? Comment ça se passe?
Alors, je vais vous répondre, ça va peut-être par une formule. C'est-à-dire que ce qu'elle appelle un dysfonctionnement est le fonctionnement de la justice. Et c'est là où ça pose un sujet, c'est-à-dire que souvent, et ce n'est pas la première fois, c'est-à-dire que la prise de décision qui permet, par exemple, de faire ce que le juge a fait, n'est pas
hors loi, hors procédure. C'est pas un dysfonctionnement. Il n'a pas fait de faute. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un problème de diagnostic, oui, un problème de jugement. Et c'est là où on touche la problématique la plus importante. Parce que, si vous voulez, je pense qu'on manque dans nos prises de décision de rationalité, de process, de criminologie, mais surtout, et c'est sur le problème de, la problématique de la justice des mineurs que nous, on critique, c'est qu'il y a beaucoup trop d'idéologie. C'est-à-dire qu'on apprend aux magistrats, à partir du principe que déjà, le mineur délinquant est, doit être réhabilité, est déjà une victime, etc., etc. Mmh. Et c'est pour ça que la victime est éclipsée. C'est-à-dire que tout est focalisé sur le délinquant. D'où le la disparité.
Mineur, c'est lui la victime,
et là,
finalement.
Et là, si vous voulez... C'est pas un problème de dysfonctionnement, c'est un problème de fonctionnement justement.
Alors, est-ce qu'il
de
faut
toute
revoir...
la justice des mineurs.
Alors est-ce qu'il faut revoir la justice des mineurs parce
et,
que
et c'est pour ça que c'est compliqué. Oui, mais parce qu'en fait, on peut toujours dire mais non, mais en fait, rien n'a pas été fait en dehors des clous.
Bien sûr. Alors est-ce qu'il faut, parce que j'ai l'impression que dès qu'il y a un drame, on dit la justice des mineurs, faut revoir et on revoit régulièrement et c'est jamais alors, suffisant. Alors qu'est-ce qu'il faudrait de plus ?
Je vais vous répondre. Quand la dernière loi de réforme du code de justice des mineurs qui a été réformé plus de 60 fois hein, quand même, ce qui aussi interroge sur la manière dont on réforme en France, notre syndicat était bien seul pour dire qu'on réformait à contre-temps et à contre-sens.
Votre syndicat, c'est Force Ouvrière.
Oui, à savoir qu'on a détricoté ce qui fonctionnait, à mon avis, hein, ça n'engage que moi, hein, dans, enfin moi et mon syndicat. Par exemple, on a supprimé la présentation immédiate des mineurs qui permettait de juger rapidement un mineur qui était déjà réitérant, déjà délinquant, ce qui était peut-être le cas des agresseurs d'Elias. Non, en fait, on a fait une césure et nous, on a dit mais non, mais il ne faut pas faire de césure. Au contraire, il faut raccourcir le temps. Donc, vous voyez, en fait, vous savez, Einstein, il dit c'est plus difficile de déconstruire un atome qu'un préjugé. Or, toute la justice des mineurs part d'un préjugé, justement, et sur lequel, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, que le temps éducatif l'emporte sur le temps de la sanction. Mmh. Et on ne sait plus sanctionner. Aujourd'hui, sanctionner vite est vu comme mal. Aller en prison est vu comme mal. C'est pas le crime qui est mal, c'est d'aller en prison qui est mal. C'est pas de juger vite qui est bien, c'est de juger lentement qui est bien.
Le procureur Molins, qui était ce matin sur BFM TV, disait oui, mais la prison, c'est derrière, c'est l'école du crime, c'est la récidive.
Non, mais le problème, c'est que même les magistrats, ne croient plus dans la prison.
Oui, c'est ça.
Donc, à un moment donné, c'est compliqué. Donc, en fait, il faut reconstruire et refonder. Alors, peut-être aussi que c'est de la faute aussi de cette société qui n'a pas su investir intelligemment la prison. Mmh. Moi, je suis la première à dire que les prisons n'ont pas été investies de façon intelligente. On manque de place, on n'a pas mis des moyens, notamment sur la justice des mineurs, on pourrait en parler pendant des heures, etc. Mais pour autant, une fois qu'on a dit ça... On peut pas se condamner à l'inaction. Parce qu'à ce moment-là, on ne fait plus rien. Si vous commencez à dire la prison, ça sert à rien, c'est l'école du crime, mais alors qu'est-ce qui reste ? Il reste rien. Donc il faut réinventer. Nous, on est pour des ultra courtes peines, vous le savez, pour les mineurs.
Parce que c'est Gérard Darmanin qui est pour les peines ultra courtes.
Oui, mais
effectives alors.
Mais bien sûr, parce qu'en fait, c'est exactement, quand je parle de préjugés, l'inverse de ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la sanction n'est vue que sous l'aspect de la réhabilitation. Comme c'est vu sous le sens de la réhabilitation, il faut du temps très long. Donc en fait, tout le monde veut que ça soit très long. Moi, je pense que non. Il ne faut pas désocialiser. Il ne faut pas rester longtemps en prison. Mais par contre, il faut sanctionner vite pour stopper un parcours de délinquance. Mais les ultra-courtes peines, c'est quoi ? Les ultra-courtes peines, ce n'est pas simplement mettre en prison. Ça serait pendant 7 à 14 jours. Prendre un jeune mineur, comprendre pourquoi. Pourquoi il a été violent ? Est-ce que lui-même est déjà en dépendance ? Est-ce qu'il est dans une bande délinquante ? Est-ce que ses parents sont défaillants ?
Est-ce qu'il a des problèmes ?
Est-ce qu'il a des addictions ? Etc., etc. Donc ce temps, il doit être utile de la prison. Ce n'est pas un temps inutile.
On a les moyens de tout ça ?
Non, mais moi ce que je dis, c'est qu'en fait, il faut changer de cadre. Il faut changer de paradigme. C'est-à-dire que les ultra-courtes peines, elles doivent se penser dans une prison qui est complètement à réinventer dans ce système-là. Excusez-moi.
Je vous en prie. Moi, je pense surtout... que s'il fait 15 jours de prison, plutôt que chercher pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, sa jeunesse et tout, je pense surtout que s'il fait 15 jours de prison, il est surtout plus envie d'y retourner.
Exactement.
Il est surtout plus envie d'y retourner tellement c'est dur. Tellement c'est dur 15 jours en prison. Et il faut que le gamin, il se dise, plus jamais ça. Tant pis, plus jamais ça, mais c'était trop dur ces 15 jours.
Mais 15 jours...
que là, la prison...
Alors, je voudrais juste...
smartphone, par exemple, en prison.
Voilà, je voudrais juste terminer.
Et que le gamin, il soit dégoûté d'aller en prison. Ils se disent...
Aujourd'hui, les magistrats, depuis la réforme de Nicole Belloubet et puis toutes les autres réformes, n'ont plus la possibilité de prononcer des ultra-courtes peines.
Madame Belloubet, qui a été garde des Sceaux, des menaces
Macron. C'est complètement novateur, cette idée des ultra-courtes peines. Ce n'est pas les courtes peines, c'est les ultra-courtes peines. C'est-à-dire, exactement ce que vous dites, à la fois un choc de la sanction, pas un choc de la dureté des serments, de la sanction, une analyse pluridisciplinaire pour comprendre les causes, parce qu'elles peuvent être extrêmement multiples, et après simplement, et c'est là où aussi il y a tout à faire, mettre en place un travail socio-éducatif si nécessaire. Nous, on fait l'inverse. On commence par un travail socio-éducatif qui est assez difficile parce qu'on n'en a pas les moyens, parce qu'on ne le contrôle pas. Madame, vous venez de dire, mais en fait, ils avaient une obligation de ne pas se rencontrer. Mais en fait, on n'a pas les moyens de le contrôler.
Bon, on peut donc voir quand même qu'ils sont à la même adresse.
Pardon, oui, mais on n'a pas.
Non, ce n'était pas la même adresse.
Oui, mais on a...
Ils sont dans la même résidence.
Oui, mais vous n'allez pas mettre pas la même un policier ouais. derrière chaque mineur.
Il suffisait d'appuyer sur Géoportail. Attendez qu'elle finisse, que madame Bouguer. Dans les problèmes de nos prisons, est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire de... Parce que moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que ce qui est important, c'est de sanctionner la primo-délinquance.
Mais oui.
Et que ceux qui partent en prison aujourd'hui, ça fait 10 fois que vous les voyez, ou 15 ou 20. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi tout un travail à faire sur la vitesse de la justice et du coup dégager les prisons des gens qui sont en préventive et ça nous ferait des places quoi. Il y a quand même un travail autour de ça quoi.
Alors c'est exactement le principe même des ultra courtes peines, c'est-à-dire un fait très grave, c'est-à-dire une atteinte aux personnes. En fait, c'est l'atteinte à l'intégrité qui est grave. C'est pas le petit vol. On va pas mettre quelqu'un en prison pour ça nécessairement. C'est l'intégrité de l'autre. C'est-à-dire apprendre à un mineur que le corps de l'autre, que le respect de l'autre, c'est primordial dans une société. Si vous apprenez pas ça à un mineur, c'est fini. Il va à 14 ans sans empathie.
Vous êtes
conscient
des mineurs qui sont en état sauvage, vous ne pouvez rien leur apprendre.
Et c'est pour ça. C'est pour ça.
Oui, mais
donc, si vous le stoppez
à 14
pas.
Ans, tu peux quand même être sauvé, peut-être.
Et donc, encore. C'est important, si vous voulez, que ça intervienne très vite, que ça ne soit pas trop long, parce que l'idée, ce n'est pas de désocialiser, que ça soit dans des emplacements qui ne soient pas les prisons actuelles.
Oui.
C'est ça que je dis. Parce qu'à chaque fois, on vous dit ah non, mais la prison actuelle, ça ne sert à rien. Donc, il faut imaginer les choses autrement.
Mais qui n'est pas les mêmes codes que les prisons
actuelles. Évidemment,
ça va être la dureté de la prison.
Béatrice Bouger,
Légion
magistrate.
Voilà,
reste avec nous.
Légion.
Reste mais avec dans nous. Les années 60, c'était un deal.
Alors on a supprimé.
Vous allez en prison ou vous allez à la Légion.
Mais
un deal,
on a supprimé
au
aussi.
Le bagne n'avait pas envie d'y retourner.
Mais laissez-la répondre. On a supprimé des actions qui étaient faites avec l'armée qui fonctionnaient très bien pour les mineurs. Parce que c'est de l'idéologie. On a supprimé les possibilités de juger vite parce que c'est de l'idéologie. On a mis de la césure parce qu'on trouve qu'il faut mettre du temps là où moi je pense qu'il ne faut pas en mettre. Je parle évidemment pour une petite catégorie de mineurs qui est extrêmement violente et qui commet des faits graves. Je ne parle pas pour tous les autres mineurs dont en général, on ne les revoit pas.
On parle de ceux-là, nous.
Évidemment, on est d'accord. Donc, c'est quelques milliers de mineurs. Ce n'est pas des centaines de millions de mineurs, c'est quelques milliers. Mais si vous ne les stoppez pas, ils progressent dans leur carrière de délinquant et après, c'est trop tard.
Et ils pourrissent le quotidien des Français.
Vous restez avec nous parce que maintenant, on va poser la question de savoir... Ce jeune de 14 ans qui a tué l'assistante d'éducation hier à Nogent, que va-t-il devenir ? Devant quel tribunal va-t-il passer ? Est-ce qu'il va aller au moins devant un tribunal ? Voilà. Beaucoup de questions autour de ce jeune de 14 ans. À tout de suite.
RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules. RMC, Charles Magnin.
On se retrouve tout à l'heure à 5h en direct pour toute l'info, toute l'actu évidemment, mais aussi de l'humour, des débats, de l'humeur. Et vous, au 32-16, toute l'équipe de Charles Matin autour de moi, Géraldine Demory, Emmanuel Lechypre, Anthony Morel. Et vous, à tout moment, rendez-vous à 5h sur RMC.
RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story. Dans les dernières informations que l'on a concernant le meurtre hier de Nogent, on sait qu'on vient de l'apprendre, la garde à vue de ce gamin, il a 14 ans, de ce gamin a été prolongée. Donc les enquêteurs ont encore des questions à lui poser à propos de la motivation de son geste.
C'est pas d'ailleurs s'il parle en garde à vue.
Bien sûr. 14 ans,
vous ne savez pas.
Auteur d'un meurtre. A priori, quel est le chemin judiciaire pour lui maintenant, Béatrice Brugère?
C'est un juge d'instruction pour mineurs, évidemment, parce que c'est une justice spécialisée qui va s'en occuper. Il y aura la question de la détention pendant le temps de l'instruction qui va être posée, sachant que pour un crime, la détention prévue, c'est 6 mois renouvelable une fois, éventuellement 1 mois, mais bon, c'est un peu technique.
un an. Donc ça veut dire que si l'instruction n'est pas finie dans le délai d'un an, il sera jugé libre ou sous contrôle judiciaire, puisque c'est un délai très court, peut-être trop court d'ailleurs. Et puis il sera jugé, alors vous dites qu'il a quel âge?
14 ans.
Il a 14 ans, mais il ne sera pas jugé devant une cour d'assises pour mineurs, mais il sera jugé devant un tribunal pour enfants.
Et donc il risque la moitié. Il risque la moitié de la peine.
La moitié de la peine. Donc là, alors je connais pas la qualification exacte, mais il aura
moitié de 30, ça fait
max.
Voilà.
Ouais, il n'aura pas 20 ans.
En résumé, il sortira à 27-28 ans, quoi.
Alors l'excuse de minorité, elle est pas automatique, mais elle est dans les faits quasi systématique, puisqu'en fait on a quasiment très peu de cas où elle est écartée, mais ça reste à la discrétion des magistrats, évidemment. Il faudra voir si le parquet. Donc ça, c'est aussi des sujets qui sont dans la PPL Attal qui sont en cours d'ailleurs devant le Conseil constitutionnel, qui ont un tout petit peu assoupli l'excuse de minorité pour justement des crimes, mais en récidive légale. Bon, ça arrive quand même rarement.
Oui, quand même. Est-ce qu'il peut y avoir une abolition du discernement aussi?
Alors,
en fonction de...
Alors, il peut également avoir la problématique, parce que c'est tout à fait juste. Pourquoi à 14 ans, on poignarde comme ça quelqu'un? La question, évidemment...